Ok, donc on est ici, on est aussi au Rapperché. Je sors mon petit texte. Festival de l'écoute et de la radio, 3e édition. Donc c'est un mini-festival autour du son, de l'écoute, du partage, avec des gens qui font du son, de la radio, du théâtre, du slam, du rap, avec des gens qui écrivent, des gens qui aiment écouter, qui aiment se promener, qui aiment ne rien faire. C'est organisé par un collectif qui s'appelle Écoute que coûte. Auxquels participent la Fédé des radios Asso de toute la région, la Franf, Radio PFM, Radio Scarpe Sensé, Micro Rebelle, le Théâtre de l'Aventure, la Sorpiste et d'autres. Et ce soir, on vous propose donc une soirée autour du son, mais aussi de la radio, du rap, amis et alliés de longue date, on en reparlera peut-être. Déjà, merci d'être ici, dans un mini-festival qui est non coté en bourse, qui est artisanal, qui est fait par des gens, pour des gens, sans but lucratif. Alors, c'est gratuit. Donc, peut-être qu'il y a des gens ici qui n'avaient pas assez d'argent pour aller de l'autre côté. Donc, merci à vous d'être pauvres, mais riches en temps. Et on remercie tout de suite le Rapperché, qui nous accueille chaleureusement. Donc, voilà. Un petit... un peu de bruit pour le rat, le Rapperché. Un jour, les petits rats boufferont peut-être le gros chat. Alors là, c'est une soirée en deux temps. Donc dans 1h, 1h15, vous aurez droit à une conférence rap. Le rap, c'était vieux avant avec DJ, avec Moineau et DJ Stamif.
DJ Stamif !
Qui vous proposeront donc une histoire du rap de 1980 à 2000, ponctuée d'extraits sonores. Non. Et de vidéos. Ne ratez pas ça. On n'a pas répété avant, je viens de le lancer pour voir si ça marche, mais ça ne marche pas. Et avant ça, donc, on vous propose une séance d'écoute collective autour de la méthode rap volume 1. Donc c'est quoi une séance d'écoute collective, me demanderez-vous. Il y a des gens qui n'ont pas forcément exactement compris le concept de l'écoute collective. Donc on va écouter des extraits de la série de podcasts qui ont été réalisés par MTD. Qui est ici avec nous. Il y aura 3 extraits de 5-6 minutes et entre ces extraits, il y aura des échanges avec eux. Et on ménagera aussi donc en fin de parcours un temps d'échange avec vous, le public. Donc préparez vos questions pertinentes, impertinentes, sucrées, salées, piquantes, douces, amères. On a besoin de vous. Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce qu'au fond du bain, on a compris le concept d'écoute ? Ouais ? Let's go! Alors on est content, on est super content d'accueillir l'équipe de MTD. C'est un peu la success story de la radio locale du Pas-de-Calais. Puisque vous êtes passé de la web radio lensoise Micro Rebelle aux ondes prestigieuses de France Culture, à moins que ce ne soit l'inverse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'émission de base sur Micro Rebelle. Alors je sais pas si donc dans cette émission il y a Bugs qui est ici présent qui fait toujours dans cette émission une présentation super léchée des participants et je me propose modestement d'essayer de faire la même chose dans le style de Bugs. Ça sera pas aussi bien c'est sûr, mais c'est parti, allez j'essaye, je me lance, c'est mes premiers pas dans la présentation méthodique. Il est le sel de l'équipe. Sa sauce est salée, il fait du sale. C'est un compliment dans le rap. Base, le sel, c'est son blaze. C'est la base. Pas de bad buzz pour lui, il fuse. Fausse compagnie au Wack MC, ses rimes sont poivrées, pimentées, épicées. Mesdames et messieurs, jamais seul, le seul et unique. Base, le sel. C'est comme Boulet Bill, on sait jamais qui est le chien. Bugs Benny, on sait pas si c'est le lapin ou le chasseur. Qui raconte l'histoire ? Référence à la soirée d'hier pour celles et ceux qui étaient là. Vous auriez dû être là. Bugs Bunny, c'est le Bugs Bunny du rap. Il est rapide, toujours en avance sur le beat. Il t'attend sur la ligne d'arrivée pour te narguer avec une punchline de malade. Alors, quoi de 999, docteur ? Ladies and gentlemen, my man, Bugs Bunny. J'ai l'impression de faire un stand-up là, mais.
C'est bien, tu fais bien.
Ouais, ça va. Lève-toi, Nico. C'est un sit-up.
C'est quoi, Nico ?
C'est enregistré là, c'est pour la postérité. Ouais, c'est bon, ça marche. Bon, bref, on parlera de cette soirée après. C'est l'autre philosophe de la team, ingénieur ingénu en sciences rapologiques. Alain G a certes un blaze avec un jeu de mots un peu douteux, mais quand il vient au mic, il gère. Sa voix suave et ses placements arrivent toujours à point. Il finit toujours par trouver ton point, G. Même si tu n'en as pas. Et ça, c'est vraiment très très fort. Mesdames et messieurs, Alain G. Alors vous aurez compris, on a des petites contraintes techniques plus imprévues les unes que les autres dans cette soirée. Et donc on a un micro à se partager. Et donc on va se passer le micro, il n'y a pas de souci. Pour d'abord un petit point récap avant d'écouter très vite le premier son. Qui peut nous faire un petit peu justement le récap du concept de la méthode pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas?
Ok. Eh bien, oula. Ok. Bonsoir tout le monde. Donc ici Bugs Benny pour vous. Oula. Faut que je me décale. Désolé. Donc moi c'est Bugs Benny pour vous présenter en quelques mots le concept de la méthode rap. L'idée c'est d'explorer justement ce genre musical qu'est le rap à travers l'expérimentation. l'idée c'est d'approcher le rap par le biais de l'expérimentation. Nous, en gros, pour se raconter un petit peu, c'est qu'on écoute énormément de rap, sauf qu'on en a une écoute uniquement subjective et on ne l'a jamais véritablement mis en pratique. Et l'idée c'était d'essayer d'explorer en gros ce qu'il pouvait y avoir de. Comment dire ? Ce qu'on allait pouvoir apprendre par la pratique. Et donc, dans la méthode rap, l'idée c'est qu'on va à la rencontre d'artistes. Qui nous apprennent certains de leurs rudiments, leur façon de rapper, leur façon de poser. Et surtout, ce qu'on se voulait, c'était de réussir à réaliser un documentaire qui mêle donc une approche de compréhension du rap, mais également une approche de. Comment dire ? Une approche où il y a une forme d'apprentissage pour les personnes qui ne connaissent rien du rap, où ils peuvent en gros. Commencer à évoluer et aussi à développer avec les personnages qu'on va essayer d'incarner dans ce documentaire. Et donc, en gros, il y a plusieurs thématiques qu'on a choisies pour justement faire ce documentaire. Ces thématiques, donc, c'est les suivantes. On a parlé d'ego trip. Pour les personnes qui n'ont... Là, par exemple, j'ai dit ego trip, peut-être il y a des personnes en public qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit. C'est tout un langage qui vous semble peut-être trop bizarre... Ego trip, la voix, la façon dont on va justement essayer de poser sa voix quand on va se mettre à rapper, la façon dont on va aussi justement jouer des mots, l'art de l'écriture, etc., etc. Enfin bref, il y a plusieurs thématiques qui vont être explorées au fil des épisodes et l'idée c'est que nous on s'approprie ces thématiques et qu'on traverse en gros une sorte de cheminement, une sorte de quête où on veut devenir les meilleurs rappeurs amateurs. Donc voilà le projet.
Ok, on va tout de suite enchaîner avec un premier extrait choisi avec vous. C'est l'extrait du premier épisode de La Méthode Rap volume 1 et cet épisode s'intitule « Tout le monde peut faire du rap ». On écoute ça ensemble, j'espère que ça fonctionne.
Il faut que tu sors de l'enceinte pour arriver jusqu'à moi.
Il faut que tu retiennes quelque chose à la fin.
Si t'as pas au moins un sourire ou un rire, ou un sursaut, tu sais, hein. Ou un frisson, ou une larme, moi je dis faut rembourser.
Je suis un bouffon qui aimerait disparaître.
Tu te rends compte qu'en fait tu gueules depuis une montagne et qu'il y a vraiment des gens qui répondent, quoi.
Toujours bout de la zig, ces sentiments qui nourrit tout le monde.
La méthode rap, volume 1. Introduction ou introspection.
Putain, je l'ai plus.
Lui, c'est Bugs Benny.
Il
se prend la tête depuis le jour où on s'est juré de devenir meilleur rappeur amateur. Mm-hmm. Ça fait de la peine de le voir comme ça. Pauvre type.
J'ai le doute quasi. Ouais.
Ah, pour info, moi c'est Baz Le Sel. Mais on parlera de moi plus tard.
C'est quoi votre but? Vous voulez faire un morceau de rap. Ok? Vous avez fait un morceau de rap. Vous voulez faire un morceau de rap pourquoi? Pour faire un groupe de rap?
Nous, on veut être les meilleurs rappeurs amateurs. C'est ça notre.
L'objectif.
Notre but.
C'est charmé.
Ah, et lui, c'est Alain G. C'est le crâne de Zizou sous un petit bonnet. Il a le bagou d'un érudit armé d'idées révolutionnaires. Les seules fois où je le vois rire, c'est quand il se fout de ma gueule.
C'est intriguant, votre approche, parce que j'ose espérer que si tout le monde te dit que... Enfin, j'espère que t'en attends vraiment rien de la vie que tu demandes, quoi. Que ça jouera pas sur ton amour de le faire, ton plaisir.
Ah ou, ouais, tu vois ? Non. Non, c'est... On produit un documentaire.
Bah voilà.
Qu'est-ce qui fait la saveur d'une rime ? Comment trouver sa voix ? C'est quoi une punchline ? Nous, on a plein de questions. Alors avec Bugs et Alain G, on a fait un morceau qu'on présente à des artistes pour qu'ils nous donnent des conseils, des astuces, des techniques pour bien rapper.
Je t'ai dit, on essaye de faire un morceau. Est-ce que je peux te le faire écouter ?
Ouais, de ouf.
Et tu nous fais tes retours.
Les retours, ouais.
On débute, hein.
Qui pose ?
Nous deux et encore un autre.
C'est trop cool.
Ça, c'est vous trois ?
Ouais.
C'est nous trois.
Dans les frigos, la nourriture est périmée. Moi, je me plains pas, j'ai grandi avec père et mère. Les jeunes veulent être artistes ou gérer des périmètres. Ils finiront caristes ou intérimaires. Je fais pas le dit, je sais qu'on vient tous d'un périnée. Ma vie ressemble à un film de série B. Il a la panoplie du parfait criminel. Je crois que j'ai compris la théorie du mort kilomètre.
Alors, la version gentille ou...
C'est éclaté.
Non, je rigole.
Ouais, il est bien le morceau. Hein. T'as des bonnes phases et tout ça.
Et bah, tu vois, moi, c'est le. Bah, la périnée, c'est là où j'ai dû rigoler, je pense. Parce que c'est vrai qu'elle est bonne.
Ensuite, je sens quand même que dans l'interprétation.
C'était assez orthoxe et assez scolaire.
Bugs Benny, philosophe qui veut Bibi, sa raison. Eito, hate, l'infini, ça résonne. Une chaude voix me chuchote que je crierai dans ma chute. C'est pas un ADN que j'ai, c'est des chaînes. Maudit spectacle, j'ai un destin détestable. Quand le pen y passera, ce chien on le dédicacera. Je crois pas leur tirade, j'aime pas leur petit rap. Ça joue les pirates, si ça dérape, ça tirape.
Mais c'est vrai que pour un one shot.
En tout cas là, c'est pas un morceau où vous affichez quoi.
Oui quand même, ouais, j'aurais bien aimé entendre un petit refrain quand même.
Créer des éléments déclencheurs.
Mais c'est de la respiration.
Des attractions auditives entre guillemets.
Peut-être un refrain. Et ça peut être un mot. Mais sinon, les punchlines, elles sont bien. Moi, j'aime bien.
Il y a des rimes qui me font rire. Il y a des placements aussi qui provoquent un truc chez moi, tu vois.
J'ai des rêves dans un autre univers. Tout ce qui me retient ici, c'est Lucifer. Ma persona dans une soucoupe sur TF1. Je passe mes nuits à ne pas souiller le téléphone. Je pose ma foi dans leurs mains. Tous les jours, je prie pour avoir un bout de pain. Que des formes dans ma vie. Les QTE sont accessibles. On continue d'accès des filles.
Tu veux une note sur 20, c'est ça ?
Il y a des voix qui sont plus à l'aise que d'autres.
Il y en a un qui pose pas très fort, en fait, qui a pas une voix très très puissante, mais... Ah d'accord, c'est toi, t'es timide, du coup.
Ouais.
On dirait que tu poses comme ça. On dirait que tu poses comme ça.
Donc il faudrait que je pose plutôt...
Ouais.
Pas, le torse bombé, le,
ouais, pas. Comme ça. Et puis tu te détends, quoi, genre...
Ok, souffle voilà. Un petit peu.
Ouais.
Essayer de plus s'approprier son texte, plus l'affirmer... On a le sentiment que vous récitez quelque chose.
Le gars timide, c'est moi, Baz Le Sel. J'ai jamais voulu être un rappeur. C'est un peu malgré moi que je suis là. Tout ce que je voulais, c'était passer du temps avec Alain G et Bugs. Juste traîner avec eux. Et en vrai de vrai, plus le temps passe et plus je m'en tape de savoir bien rapper. Pour moi, l'art, c'est du divertissement. Et je veux juste rigoler. Il y en a pour qui c'est une affaire plus sérieuse. Pour qui, c'est vital.
Des fois, avant d'arriver à ce pourquoi on est assigné dans la vie, ton rôle, ta place sur le terrain, tout ça, des fois, il faut peut-être passer par être rappeur pour...
Virus, un rappeur qu'il est devenu par nécessité.
Il y en a dans le foot. Je prends l'exemple du foot parce que il y a plein de postes différents, comme dans le son, comme dans le rap. T'en as beaucoup qui veulent être avant-centre, t'en as pas beaucoup qui veulent être arbitre ou qui veulent être gardien. Enfin, tu vois, si, gardien à la limite, mais... Mais après, je dis ça dans le sens un peu extrême où c'est pas véritablement un choix, je crois. C'est-à-dire que ce que tu dois être finira par arriver. Et ça sera peut-être ça, hein, d'ailleurs. C'est comme à l'école quand on te demande en sixième qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu vois. Moi, j'avais dit barman. Parce que j'avais vu le film Cocktail et que j'ai dit « Elle a l'air d'être bien, cette vie, à Tom Cruise dans ce film ». Et puis, bon, c'était pas bien passé. Mais il a fallu passer par plein de... Moi, je me suis jamais dit, je vais être rappeur, par exemple. Ouais. Mais après, je sais pas. Vas-y et tu sauras.
Ok, donc c'était extrait de La Méthode Rap volume 1, premier épisode, donc sur 6 épisodes, et c'était extrait de Tout le monde peut faire du rap. Alors peut-être celles et ceux qui sont aficionados de rap auront reconnu certaines voix dans l'extrait qu'on a choisi. Peut-être un mot justement sur le casting, le choix, et après on parlera un petit peu de ce rapport que vous avez avec les intervenants.
Bah pour le casting, en fait, nous, quand on a eu la possibilité de faire ce documentaire, on n'a pas un grand réseau qui nous permettait d'avoir des artistes en interview, et on avait même peur que personne ne veuille nous répondre. C'était parce que c'est pas facile de faire venir les artistes et tout ça. Et en fait, il y a deux aspects, c'est qu'on a quand même constitué une équipe d'artistes locaux, de rappeurs locaux, qui nous guident dans chaque épisode. Le premier, enfin, je sais pas, sur la voix, c'est James Iscray, c'est un artiste local. Dans le deuxième qu'on va entendre après, c'est PLDG. Et donc, on s'était dit, au cas où ça marcherait pas d'avoir des artistes nationaux, on avait pris cette stratégie, et je trouve qu'elle est bien parce que ça fait aussi pas trop de différence entre des artistes locaux qui savent parler du rap, qui connaissent cet art, qui peuvent en parler d'une bonne manière, et peut-être des artistes nationaux qui peut-être sont très reconnus, mais en fait n'auraient rien à dire. Donc ça, c'était notre première stratégie, c'était de faire ça, c'était de constituer une équipe autour de nous pour quand même avoir des intervenants. Et après, le deuxième aspect, c'était d'avoir d'autres artistes. Et alors là, on a envoyé des kilomètres de mails à un peu tout le monde. Et en fait, on n'a pas trop cherché l'équilibre. En fait, on a fait avec qui on pouvait faire. Et on est quand même plutôt content du casting, je pense. Parce que les gens, la manière dont ils parlent du rap, en tout cas dans ce documentaire, c'est vraiment intéressant. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas très équilibré, c'est pas représentatif de l'ensemble des courants artistiques qu'il y a dans le rap, je pense. C'est pas forcément ce qu'on voulait, mais on n'est pas déçus, je pense, des intervenants qu'on a pu avoir.
Wesh, la tête du fond, faites trop de bruit là. Oh, oh. Ouhou. Parlez un peu moins fort, s'il vous plaît. Merci. On s'entend même plus rapper, quoi. Où j'en suis avec tout ça? Qu'est-ce que, en fait, le rapport que vous avez avec vos intervenants, la position dans laquelle vous vous mettez, de apprenant à prof ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça vous permet de dire? Qu'est-ce que ça vous permet aussi de faire sortir en fait de cette discussion en fait à votre avis?
Moi par exemple en ce qui me concerne, c'est la posture qu'on a adoptée. Là où elle est intéressante, c'est qu'elle permet plus facilement d'accepter ses failles. Genre dans la façon dont la posture qu'on a adoptée, c'est la posture où on part de l'idée qu'on est véritablement des personnes complètement vierges de connaissances du rap, complètement presque, je sais pas, ouais, une forme de fausse naïveté qui facilite en gros cette exposition de soi qu'on va avoir vis-à-vis de la personne qu'on rencontre. Et donc, je trouve, moi, de mon côté, c'était une manière d'assumer des failles. C'est comme si, en gros, par ce documentaire et par le podcast en gros, qu'on a réalisé en l'occurrence, comme si on réalisait une sorte de pseudo-rêve. Des prétentions artistiques qu'on n'aurait pas assumées autrement. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas.
Et par exemple, je vais prendre le cas de moi. Genre, depuis le début, je suis hors tempo. Genre ça, c'est vraiment le plus gros défaut depuis qu'on a commencé à faire toutes ces émissions et tout. On a toujours remarqué que j'étais hors tempo, et donc c'était une solution aussi pour... Moi, j'évolue, mais les gens, ils comprennent aussi l'évolution de mon personnage. Et on le voit dans l'épisode 2, sur le flow, qu'on écoutera après encore, comment j'ai réussi à résoudre ce problème qui est vrai en plus. C'est un vrai problème, c'est un vrai souci que j'ai.
Et peut-être un dernier point aussi. En fait, je pense que le concept qu'on a, ça permet d'aborder le rap par la pratique, en fait. C'est-à-dire, pas que notre pratique, mais de développer des questions qui concernent la pratique des artistes. C'est-à-dire, nous, on s'en fout de savoir qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant. Enfin, il y a beaucoup dans le rap cette question-là de raconter l'histoire des artistes et tout ça. Là, ça oblige à se poser des vraies questions sur le rap, c'est-à-dire un peu ce qui est dit au début, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu trouves que cette rime, elle est aboutie? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es satisfait de cette punchline? Et en fait, je pense que c'est ça aussi que permet notre posture. C'est pas juste une posture fictionnelle. Enfin, on le souhaite, évidemment, c'est ce qu'on travaille, mais ça permet aussi une posture d'enquête, en fait, sur la manière dont les rappeurs travaillent au quotidien. Et je pense que c'est ça qu'on veut aussi vraiment développer dans le fond, dans le fond du documentaire.
Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions un peu de techniques rapologiques dans le podcast, mais le premier épisode, il est plutôt sur la question de la légitimité. Hein, ça s'appelle « Tout le monde peut faire du rap ». Et vos intervenants, ils décrivent un peu aussi leur rapport personnel au rap, leur histoire personnelle. Il y a des gens qu'on pense connaître, par exemple le rappeur Grumps, dont on apprend qu'il était bègue, dyslexique, et que c'est comme ça qu'il a aussi lutté contre ces difficultés. Voilà, je cherche le mot politiquement correct. Du coup, je n'ai pas vraiment de questions, mais ma question, c'est un peu sur ce premier épisode en particulier. En même temps, c'est un peu rare que, on verra peut-être après, il y a des jeunes qui se mettent au rap. Quand tu arrives dans une activité, tu n'arrives pas toujours en te demandant, en se posant ces questions-là, sur qu'est-ce que c'est, on le fait, mais sans forcément réfléchir à où on est situé, socialement, politiquement, est-ce que c'est de la parole populaire, des choses comme ça?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet épisode, nous, on l'a pas souhaité. Non, mais c'est pas. Bah, si, à un moment, on l'a décidé de le faire. Mais en fait, nous, on avait 5 grandes thématiques et France Culture voulait absolument qu'on fasse 6 épisodes. Bon, et il s'est avéré que dans les interviews, en fait, les artistes nous parlaient de ça, nous parlaient de, pour eux, quel sens, en fait, c'est pas tant la légitimité, c'est le sens. Quel sens ça a pour eux de faire du rap. Et en fait, beaucoup des artistes ont fini par nous parler de ça. Et donc, en fait, on avait énormément de matière sur ce thème-là. Et comme on avait besoin d'un 6e épisode, on s'est dit, bingo, tu vois, il est là l'épisode. Et puis en plus, c'est très introductif. Ça permet de réintroduire aussi que le rap, c'est pas juste pour la réussite, c'est pas que, je sais pas. Voilà, ça a du sens pour beaucoup de gens et ça nous a paru évident, en fait, une fois qu'on a eu la matière, que de faire l'épisode là-dessus.
Là où je reviendrai sur cette histoire de légitimité... Attends, je vais m'allonger sur toi, copain. Là où donc, je reviendrai quand même sur cette histoire de légitimité, c'est que nous, il y a une question qu'on nous a souvent posée quand on réalisait nos podcasts, justement, qui traitaient de rap. C'est qu'à chaque fois, il y avait une question qui revenait souvent et à laquelle on avait des difficultés à répondre, c'est « Est-ce que vous êtes des rappeurs ?» Et ce premier épisode, ça a été aussi une manière pour nous d'essayer d'assumer le fait que peut-être il va falloir qu'on accepte le fait que, une fois le documentaire réalisé, une fois les apprentissages acquis, etc., ça y est, il fallait qu'on accepte pour nous-mêmes déjà de se considérer comme rappeur. C'est pour ça, là, par exemple, si je posais la question à Baz ou si je posais la question à Alinger, t'es rappeur ou pas, je suis sûr que les deux hésiteraient et ils donneraient pas une réponse spontanée. Donc il y a quand même malgré tout cette légitimité qui est sous-jacente parce que surtout que là en ce qui concerne le rap, et c'est peut-être une image idéale que j'ai du rap, c'est que le rap n'a pas besoin de légitimité. Enfin, je veux dire, c'est une manière dont les populations marginalisées, en fait, essayent de prendre un espace de parole dans lequel on se sent légitime. Il y a des personnes qui nous écoutent, c'est bien. Tu m'écoutes pas, Balek. Enfin, je m'en fiche, pour être politiquement correct à nouveau. Donc, il y avait cet aspect-là. Donc, je pense qu'il y a quand même une histoire de légitimité derrière. Je sais pas. Je pose la question à mes compères. Tu te considères comme un rappeur ?
Dans le premier épisode, en plus, on l'a entendu, je dis comme quoi je m'en fous du rap. Je suis juste là pour m'amuser. Et en vrai... Je maintiens, je suis toujours là pour m'amuser ou quoi que ce soit. Donc en vrai, le rap, c'est juste la raison pour laquelle on est ensemble et que je continue de profiter de m'amuser. Donc voilà, moi je suis pas...
Et toi ?
Voilà. On passe à Alain G.
Je sais pas ce qu'on est, mais je pense que pour le coup, ce truc-là, on fait d'abord de la radio en fait. Sinon, on aurait fait un album de rap.
peut-être à venir, un album à venir. Alors, on va écouter un deuxième extrait, si vous voulez bien. Donc là, c'est extrait toujours de la même série, La Bête au Drap, volume 1, mais l'épisode 2. Et c'est un extrait, donc cet épisode-là s'intitule « Quand tu cherches, tu grooves ». On écoute ça.
Allô, docteur ? Je voudrais prendre rendez-vous avec vous. Comment dire, je sais pas trop ce que j'ai. J'ai mal au mic. Si vous voulez, j'ai un extrait pour que vous compreniez.
Promo. C'est bon, là, c'est promo. Non. Insiste sur les deux O.
C'est pas la foire à la saucisse, on du rap.
Bah après, je sais pas qui c'est en dit, toi.
Je veux pas faire promo. Promo. T'as de la bio les jours de promo.
Un peu mieux.
Ouais.
T'as de la bio les jours de promo.
C'est lent. Justement, je veux pas faire comme vous.
Yo l'équipe, ça fait quoi demain matin?
De mon côté, rien de spécial. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive?
Je sais pas. Depuis la session d'enregistrement, j'arrête pas de réfléchir. Vous avez pas arrêté de dire que je suis pas dans les temps. Donc j'ai regardé sur Doctozic et je crois que j'ai une fracture du flow. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec des spécialistes du groove, mais j'ai un peu peur.
C'est quoi encore ton délire?
Non mais attends Alain, il veut progresser, c'est une bonne intention. Peut-être qu'on va apprendre des trucs nous aussi.
Bon ok, c'est où ton truc?
C'est au cabinet PLDG, avec les docteurs Alvin et Maestro.
Est-ce que le groove, c'est pas un peu l'art d'être à la fois dedans et dehors,
ouais,
dans le rythme?
C'est ça.
La méthode rap, volume 1.
Track 2. Quand tu cherches, tu grooves.
Moi, par rapport au chant, le rap, dans ma tête, c'est comme une batterie, c'est comme un percussionniste. Parce que c'est rythmique. C'est rythmique. Donc, pour moi, un batteur, il peut jouer mon couplet. Tu vois ? C'est comme des drums.
Il faut vraiment le penser comme ça.
En fait, c'est de la rythmique.
Ouais.
Donc, la rythmique, c'est, en musique, en solfège, ça s'écrit sur une partition. Un rap, tu peux l'écrire sur une partition parce que c'est de la rythmique.
C'est un peu comme les degrés de flow ou de groove dans ta batterie. C'est-à-dire qu'il y aura des batteries qui vont être énergiques. Tu vas taper plus fort sur la batterie, etc. Et en gros, ce que tu dois faire quand tu rappes, c'est que tu dois faire de la batterie et jouer avec justement le rythme qu'on t'impose, tu vois. Et après, il y a la voix qui intervient aussi, les modulations de la voix, en fonction des mots que tu vas appuyer. Moi, à un moment donné, j'avais écouté A Cappella de Nas ou de Jay-Z. Enfin, et en gros, t'écoutes et tu dis, en fait, il n'y a même pas besoin de son, en fait.
Ouais, c'est impeccable. Now let's get it all in perspective. For all y'all enjoying me, the song y'all can step with. Y'all appointed me to bring rap justice, but I ain't 5-0, y'all know it's Nas, yo. Grey Goose and a whole lot of hydro only describe us as soldier survivors. Stay laced in the best, well dressed with finesse in the white tee, looking for wifey. Thug girl who fly and talk so nicely. Put her in the coupe so she can feel the nice breeze. C'est là que tu remarques qu'en gros la technique est au service du sens. Ça, c'est un truc de fou en fait. C'est pour ça que pour moi le rap c'est un art martial limite. Push the pool stick in your new crib, same hand that you hoop with, swing around like you stupid.
Vous qui êtes docteur, vous allez pouvoir approfondir le diagnostic. Son problème, c'est qu'il attend le premier temps pour commencer. Il n'anticipe pas la musique.
Pour l'instant, je suis hors du temps. À un moment, je prends de l'avant. Réussir à réagir à tous les conseils qu'on me devrait me sortir. Avec la fracture du flow, j'ai un peu la tête sous l'eau.
Ouah, c'est chaud.
C'est vrai qu'au niveau du rythme, il y en a qui attendent d'entendre la musique pour réagir. Mais sauf que si tu attends d'entendre, tu réagis toujours avec une latence. Tu es toujours en retard. Donc c'est vrai qu'il faut déjà l'intégrer, en fait. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, je pense...
Il faut compter, hein.
Ouais, bah oui, c'est ça.
Ouais, ouais,
ouais, c'est ça, ouais.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Ouais, c'est ça. Le rythme, ça commence par 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que si tu masterises un flow ultra simple, et que tu arrives à chaque fois à tomber sur le temps, déjà, tu auras intégré 3, 4, de tomber 4, sur chaque pulsation.
3, 4. Pour l'instant, je suis hors du temps. À un moment, je prends de l'avant. Réussir à réagir, je crois que je devrais m'en sortir. Avec la fracture du flow, je me retrouve à la tête sous l'eau. Me caler justement sur la première note du temps. 1, 2, compter c'est plutôt facile. 1, 2, en vrai rien de bien difficile. 3, 4, compter c'est plutôt facile. 1, 2, en vrai rien de bien difficile. 3, 4, compter c'est plutôt facile. 1, 2,
ah bah voilà, tu vois que tu sais le faire.
Tupac, dans sa manière de parler, c'était un peu un Martin Luther King. First of all, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy trying to see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. Et Biggie, ça va être plus en laid back.
Laid back, ça va être un petit peu dans le fond du temps, même limite un peu décalé. Un micro décalage, tu vois, comme ça. C'est vraiment être détendu, quoi. Je dirais ça. Dans l'attitude, c'est nonchalant. Et rythmiquement, c'est être un petit peu en retard.
Moi, j'ai compris. Hein, c'est, quand j'étais petit, quand on me disait « Non, Biggie, c'est le meilleur rappeur et tout », ça, je comprenais pas.
Bah, moi, j'ai compris en essayant d'apprendre un couplet de Biggie. Tu te rends compte à quel point c'est chaud, en fait. Call my nigga Cheek, tell him that my will is weak. Hey, yo, come on, nigga. I'm sick of bitches lying, I'm sick of bitches haunting. Matter of fact, hey, yo, sick of talking. Hey, yo, chill.
Yes, extrait donc du deuxième épisode, quand tu cherches du groove de La Méthode Rap volume 1. Peut-être on écoutait qui là, c'était pas forcément présenté là, les intervenants, tu peux nous le dire Alain?
Ouais, là c'était PLDG pour l'amour du groove. Et comme c'était bah, la question du groove et du flow, ça nous semblait indiquer. C'est un rappeur et un producteur et beatboxer lillois, Alvin et Maestro. Et un des deux sera là la semaine prochaine au Larsen Festival, festival de rap et de hip-hop, parce que Alvin fait partie du groupe Phoenix Crew, des gars de Fény, à côté de Maubeuge.
C'est local.
Voilà, c'était la page locale et annonce. C'est assez rare d'entendre des rappeurs s'exprimer sur vraiment la technique, sur la manière de poser, sur la musicalité, sur la poétique, sur les règles de la poésie. Et du coup, j'ai pas de questions, mais c'est comment vous l'avez vu ce truc-là, quoi. Et, ah oui, c'est ça que je voulais dire, je voulais enchaîner, c'est ce qu'on comprend aussi au travers de ce podcast, c'est que c'est compliqué, quoi, c'est vachement difficile.
Ben, les questions, je pense, elles se sont aussi posées par rapport à mon problème. Je pense que c'est ça, parce que le passage qu'on a fait, on avait l'idée de faire sur le flow, mais comme j'ai ces soucis de non-compréhension de rythme, bah ça a aidé à développer l'épisode. Et ça a été aussi le but. C'est pour ça que c'est un peu l'épisode où je suis en tête. C'est mon problème, c'est ça a aidé. Et il y a plusieurs passages où on rebondissait en fonction de ce que moi j'avais, ce qui permet de comprendre aussi... Quand on a fait l'interview avec eux, de comprendre et de développer. Et je sais pas.
Oui, donc en gros, Baz Le Cell, c'était le fil conducteur, son problème de groove et de flow, c'était le fil conducteur en gros de cet épisode. Mais alors, je sais pas vous, mais par exemple, nous, on a contribué à cet épisode, ok, très bien. On était autour de Baz, on était là pour le rassurer, le consoler dans les méandres de sa. Dans ce qui le chagrinait. Donc on a été un soutien. Mais en gros, là où il y a cette difficulté du rap, c'est que là, en fait, ce qu'on était content aussi de mettre en œuvre, c'était ce truc où, finalement, l'un d'entre nous, donc là, est confronté à une difficulté, il doit essayer de la surmonter, et le public, les auditeurs, les auditrices, en écoutant cet épisode, eux-mêmes sont renvoyés peut-être à une difficulté qui pourrait être la leur si jamais ils se mettaient à vouloir rapper également. Le fait d'être dans les temps. Et par exemple, là, la petite comptine, une fois qu'elle a eu lieu, enfin cette comptine pour apprendre à compter et à savoir justement, ouais, moi j'appelle ça la comptine, vous voyez, la comptine au sens on compte. Donc dans cette comptine là que Baz Le Cell a expérimenté, je vous le dis premier degré, je vous le dis sincèrement, la première fois que j'ai écouté ça, au fond de moi, j'étais ému. Genre, ça m'a profondément ému de me dire, ah, il a peut-être surmonté un de ses plus gros problèmes. Il s'est enfin compté jusque 4. Et genre, ça m'a touché profondément quand, la première fois qu'on avait écouté ça, c'était dans la voiture, j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai été trop content, en gros, de voir à quel point il avait réussi à surmonter ça et ça faisait un bien fou, quoi.
Mais en fait, ce que tu dis, je pense que, tu vois, le premier épisode, c'est tout le monde peut rapper. Tout le monde peut rapper. Sauf qu'en fait, faire du bon rap, et c'est dit ailleurs d'ailleurs, c'est très difficile. C'est-à-dire que tout le monde peut rapper, d'accord. Mais faire un truc bien, c'est compliqué. Ça demande énormément de compétences et tout ça. Après, sur l'aspect réussir à faire parler les artistes sur des aspects techniques, c'est là où je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Et nous, on fait de la radio. C'est-à-dire qu'on produit un documentaire. Et en fait, c'est là notre travail d'enquête. C'est sur ça qu'on a travaillé. Nous, faire du rap, on a fait ça en 2 minutes. On l'a fait vite fait. Par contre, construire le documentaire, réfléchir aux angles et de questionnement sur certains aspects qu'on considère comme des piliers du rap, c'est là qu'il est notre travail. Et c'est en fait vraiment ce qu'on voulait faire. Essayer de dévoiler, lever le voile sur qu'est-ce qui est technique dans le rap, qu'est-ce qui est l'esthétique du rap, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on apprécie, qu'est-ce qui fait que ça titille notre sensibilité dans le rap. Nous, c'était ça qu'on voulait développer.
Et en même temps, c'est un art qui aime gommer ses traits. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est pas un art qu'on peut apprendre à l'école. Il y a quelques écoles de musique assez ouvertes qui proposent des cours de rap. Il y en a par exemple à Bordeaux, mais je veux dire, va au conservatoire ici, je veux faire du rap, ça va être compliqué. À Roubaix aussi, me souffle-t-on dans l'oreille. Est-ce qu'on peut apprendre finalement du rap autrement que de manière marginale, tout seul dans sa chambre, avec ses grandes sœurs et ses grands frères, ses petits frères et petites sœurs?
Alors tout à l'heure, tu n'avais pas de questions. Là, du coup, je vais prendre la décision de ne pas répondre à celle-ci. Et je voulais juste intervenir sur un point. Non, c'est que là, tu vois ce que tu dis. Déjà, pour moi, ça ne va pas de soi. Tu vois, genre le fait de dire, ce qu'on est en train de vous partager, de dire, en fait, le rap, ce n'est pas si facile que ça. Enfin, vouloir faire du bon rap, ça demande une certaine maîtrise, etc. Enfin bref, ça, c'est, je pense, le discours de personnes qui connaissent et qui aiment le rap. Mais en réalité, là où ça devient plus intéressant pour moi, c'est les discours qu'on entend réellement à propos du rap. Les discours qu'on entend la plupart du temps de personnes qui n'écoutent pas et qui n'aiment pas, c'est même, je passe du coup toutes les insultes qui pourraient exister, genre par exemple quand on dit que c'est quelque chose pour les analphabètes, que c'est que de l'argot, mais en fait ça veut rien dire, les gens qui rappent c'est du charabia, tout le monde peut le faire. Enfin tu vois, genre en vérité là, tu vois, ce discours que nous on essaye de présenter, qui montre genre donc une esthétique du rap qui n'est pas forcément facile à appréhender, à aborder, je pense que c'est pas forcément le discours évident. Le discours qui me semble pour moi planer dans l'esprit de beaucoup de personnes, notamment nos amis qui étaient sur la table voisine, qui sont partis tout à l'heure, c'est vraiment, vous voyez, des regards de personnes médusées, genre, mais c'est pas vraiment de la musique, c'est facile de faire ça, enfin bref. Et donc voilà, c'était juste, je voulais intervenir là-dessus. Maintenant, je pense Luc, enfin, il va vouloir répondre à ta question, moi j'ai dit je le ferai pas.
Après, ça a été dit plein de fois dans le documentaire, en fait, il n'y a pas de règles. C'est là où c'est difficile. Donc premièrement, il n'y a pas de règles, donc c'est difficile d'en faire une école. Deuxièmement, le rap, ce n'est pas un art qui est académique. C'est un art qui n'est pas académisé. Et donc, effectivement, en faire une école, je ne sais pas si elles existent, je ne sais pas ce qu'ils proposent, c'est compliqué. Par contre, je pense qu'on peut apprendre à faire du rap, et notamment, en fait, il y a des écoles du rap, mais elles sont informelles. C'est-à-dire que dans le rap, les gens se connaissent. Les gens se connaissent, les gens s'entraident. Les artistes entre eux se donnent des conseils. Essayent de se faire progresser les uns les autres. Et il y a tout cet écosystème-là qui, en fait, pour moi, c'est ça l'école du rap.
je vais prendre notre manière de faire, parce qu'en vrai, c'est le bon exemple. C'est que nous, on fait constamment, on s'entraide sur, autant sur les punchs que aussi, genre, plein de fois, ah, vas-y, c'est pété ou des trucs comme ça, ou ah, vas-y, tu devrais rajouter tel mot ou supprimer tel mot. Donc, en fait, le rap s'apprend en partageant, surtout principalement. Voilà.
Vous êtes passé, on l'a dit, de micro-rebelle à France Culture. Est-ce qu'il y a des gens, quand vous avez parlé de votre projet, ils ont dit attention, vous êtes en train d'intellectualiser le rap. Il y a des gens qui peuvent être un peu méfiants par rapport à l'institutionnalisation de cette culture. Une forme aussi de récupération. Par rapport aussi au côté authentique, sincère de base, de faire les choses sans forcément y penser avant.
Cette fois-ci, je vais répondre. Ça, on l'a davantage ressenti quand... on l'a rarement, en vérité, ressenti. La plupart du temps, les retours qu'on nous faisait, c'était justement que quand on découvrait le documentaire, il n'y avait pas forcément de hiérarchisation de genre dans le rap. Nous non plus, ça n'a jamais été une prétention de considérer qu'il y avait un bon ou un mauvais rap. Là où on a eu des surprises, c'est que, par exemple, tout à l'heure, Luc disait, une de nos principales difficultés, c'était de pouvoir réunir des artistes qu'on considère pertinents pour pouvoir justement traiter du documentaire. Et sans nommer l'artiste en question, mais une fois, on avait fait une proposition et on avait dans l'intitulé de notre invitation, c'était on aimerait que tu nous apprennes les rudiments du rap auprès de Radio France pour nous apprendre à faire des bonnes punchlines et pour apprendre à faire du bon rap. Et la réponse qu'on a eue, c'est désolé les gars, mais je sais pas ce que c'est que du bon ou du mauvais rap, force à vous. Enfin, genre, en gros, je traduis, c'est il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais rap, donc je n'interviendrai pas dans l'émission. Alors que nous, en fait, quand on disait bon rap, c'était pas pour créer une hiérarchie entre un bon et un mauvais rap, mais ça a été reçu comme ça. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais sinon, les retours, ça reste, non, il n'y a pas ce sentiment de légitimité, déjà par rapport au fait que ça rejoint ce que disait tout à l'heure aussi Luc, au niveau de la présentation des artistes, pour quelqu'un qui n'écoute pas de rap, cette personne ne pourrait pas distinguer qui est un artiste, qui sont parmi les personnes invitées, qui sont les personnes les plus célèbres, les moins célèbres, qui sont ceux qui sont celles et ceux qui sont considérés comme des légendes ou pas. Enfin, il n'y a pas de hiérarchisation sur ce terrain-là et je pense que ça, c'est un des bons points peut-être qu'on pourrait relever dans ce qu'on a fait.
Pour revenir un peu sur Micro Rebelle et Radio France, la vraie différence, mentalement, on peut se dire... On peut penser comme quoi, Micro Rebelle, on est totalement libre et Radio France, on est bridé sur certains points qui nous ont obligés à réaliser certaines choses ou autres. Hormis le format, on n'a rien respecté. Parce qu'ils nous avaient demandé un quota de chez les femmes. Malheureusement, on a fait le maximum, mais on n'a pas eu de réponse positive ou on n'a pas réussi à caler le bon moment pour avoir l'interview. On nous avait demandé... plein de petites choses sur lesquelles on a fait à notre façon. Donc en fait, on est arrivé comme on est d'habitude. En vrai, c'est pour ça que je pense qu'on est tous les trois très fiers du documentaire, c'est qu'on ne s'est pas trahi. Donc en fait, Radio France, voilà.
maintenant, on a Bass qui répond complètement à côté de la plaque, c'est bien. Mais c'est bien. Non, mais après, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, sur l'intellectualisation. Mais en fait, je sais pas, le rap, c'est pas un art de teubé, tu vois. Moi, je pense que le rap, il mérite un petit peu qu'on l'intellectualise aussi. Pourquoi pas, tu vois. Après, nous, en fait, notre légitimité, on la trouve dans la sincérité de notre démarche. On est des passionnés de musique. Franchement, vu ce qu'on a gagné là-bas, on l'a pas fait pour la thune, on l'a pas fait pour la gloire. Et voilà, on reste des gens passionnés de musique qui, je pense, ont une démarche sincère. Et les gens qu'on a pu interviewer nous l'ont dit, d'ailleurs. Donc, on intellectualise un peu, mais je pense que le rap le mérite, en fait, à certains moments, quand c'est bien fait. Et après, quand même, je repense à un point qui me semble important, c'est que franchement, quand il y a eu des publications de France Culture, qui, c'est vrai, est une radio très intello, on a essuyé quand même pas mal de critiques moches, quoi, tu vois. moches qui rabaissent le rap, qui rabaissent notre démarche, voire des trucs racistes, tu vois, des trucs classistes. On a quand même eu, à la suite de, de la parution, de la publication de ce documentaire, sur des réseaux sociaux notamment, pas mal de trucs un peu dégueulasses, quoi, tu vois. Donc comme quoi, il n'y a rien qui est acquis. Et moi, ça me va bien, au contraire, bah, de me dire... ma démarche, elle s'inscrit dans dans la contestation de ces gens-là et dans la reconnaissance de la valeur du rap, parce que pour moi, d'un point de vue poétique, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment, tu vois, et j'aimerais bien que ça soit reconnu.
Limite, en plus, pour également rebondir sur ce que dit Luc, là, c'est que l'idée, c'était même pas en plus de rendre intelligent le rap, ni rendre intelligible le rap, c'était justement d'essayer d'explorer l'intelligence du rap, enfin, en tant que tel, c'est-à-dire pas partir de l'idée que nous on allait donc l'intellectualiser pour l'intellectualiser, non, c'était juste se redonner confiance dans notre art qu'on chérit, qu'on aime beaucoup, et non plus lui rendre ses lettres de noblesse, parce que là aussi ce serait une prétention qui pourrait être critiquable dans les faits. Non, là nous, vraiment la démarche, c'était juste montrer et étaler toute la richesse qui peut exister par une écoute attentive et une compréhension éclairée de cet art, en gros, mais sans prétention aucune d'intellectualisation ou autre.
On va écouter un troisième et dernier extrait.
Ouais, parce que c'est pas pompeux non plus.
C'est pas pompeux. Un extrait du cinquième épisode qui s'appelle Kata K.O. Technique. Je l'ai mal noté sur ma petite feuille, mais c'est comme ça que ça s'appelle, je pense. Ok, on écoute ça, puis on en reparle juste après.
La voie du samouraï se trouve dans la mort. On doit se livrer chaque jour à la méditation sur une mort inévitable. Chaque jour, quand le corps et l'esprit sont en paix, on doit méditer sur l'idée d'être déchiré par des flèches, des fusils, des lances et des épées. Enlevé par le déferlement des vagues, projeté... La voie du samouraï se trouve... dans la mort. On doit se livrer chaque jour à la méditation sur une mort inévitable. Chaque jour, quand le corps et l'esprit sont en paix, on doit méditer sur l'idée d'être déchiré par des flèches, des fusils, des lances et des épées. Enlevé par le déferlement des vagues, projeté au cœur d'un immense feu, frappé par un éclair, secoué à mort par un grand tremblement de terre, précipité du haut de falaises de 30 000 mètres, emporté par une maladie mortelle ou contraint à se faire seppuku à la mort de son maître. Et chaque jour, sans faute, on doit se considérer comme mort. Telle est la substance de la voix du samouraï.
La méthode rap, volume 1.
Cinquième kata, call technique.
Jette de la poudre aux yeux, toi t'as de la poudre au nez, mon avenir est tout tracé sur une route goudronnée, bougronnée, à croire un jour qu'on sera tous couronnés. Le destin, un cul-de-sac qui peut se faire enculer.
C'est donc la voie que tu as choisie, celle du samouraï. Alain G, qui est le ronin des mots, le pourfendeur de rimes. T'es chaud, enfoiré.
J'essaie de pas prendre les choses à la légère, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait le poids.
Mais quand tu t'entraînes comme ça, justement, tu te mets dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu te dis au fond de toi-même?
Je me dis que je préfère mourir que de perdre la face. Et quand j'observe nos progrès, ce que je remarque, c'est que si on devait s'asseoir sur nos acquis, on serait assis par terre. Alors je travaille mes placements.
Alain, prends-moi à faire comme tu fais. Moi aussi, je veux savoir trancher dans le vif du réel. Je galère à faire comme quand tu... Tu vois ce que je veux dire?
Moi, ce que je fais, c'est... La seule chose essentielle à saisir, c'est que chaque coup est une démonstration de ton sentiment le plus profond. Ce qui s'échappe d'un volcan, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et redoutable. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus enfoui en lui.
Ouais, mais on peut en dire autant de ce qui sort d'un trou de balle, Alain. Elles mettent pas ton image.
Écoute ce que tu viens de faire. T'as détourné mon image pour renforcer la tienne. J'ai senti la puissance de ton coup. C'est cette efficacité que tu dois rechercher.
D'accord, je comprends. Mais c'est sur ça que je galère.
Ça met des plombes avant que j'y arrive. J'essaye, mais il se passe rien, ça vient jamais tout seul.
La seule chose qui vient toute seule, c'est la mort. Si t'attends un éclair de génie, tu le feras juste foudroyer. Sois précis, pisse du haut d'un précipice. Vise et arrose la tête de saisie. On commence jusqu'à trouver la rime décisive. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu te plantes, tu t'arraches. Si tu glisses, tu te fracasses. Mais les rimes, tu ramasses. Si ça t'émeut, c'est bien. Si t'aimes pas, c'est tout. Cassez-vous, on sabre tous, il crache des flammes et ça les mousse. Maintenant, je dois te laisser. J'ai encore beaucoup de gestes à peaufiner. Il y a des placements dont je suis pas fier. J'aimerais être un peu seul.
Ok, je te laisse tranquille. Mais c'était incroyable, vieux.
Cimer.
La punchline, c'est une affaire bien trop sérieuse pour moi. Je l'ai toujours considéré comme le geste le plus mystique dans le rap. Une punchline, c'est le point d'orgue de ton discours. Qu'elle soit au début ou à la fin, elle déborde dans tous les cas. Elle te sidère la plupart du temps. C'est un spectacle de l'image. Tiens, regarde.
Dis à la France que tout se paye, ce pays est en stagnation. Ici c'est racisme et vente d'armes, des clodos à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation.
Putain, quel rime de bâtard.
Toi, des fois, tu te dis, là, il me faut une punchline. Et si c'est le cas, comment tu t'y prends?
Ah, ça, je vais pas te le dire.
Ah ouais, secret du chef.
Oh, le secret d'État, même. ça reste pour moi.
Okay.
Danny Dan.
Ah non. C'est pas possible.
Punchline maker.
Ok. Bon, j'ai compris que tu vas pas me donner la formule.
Mais il y en a pas une.
Une formule, même une, c'est, j'aurais bien aimé une seule.
Il y en a pas une.
Ouais, ouais. Du coup, peut-être. Je reste un peu quand même là-dessus parce que. Non, mais
j'ai
pas sur la
tirer
formule.
Les verres du nez, hein.
Non, je vais pas te tirer les verres du nez, mais je me demande peut-être plutôt, du coup, à quoi ça sert des punchlines. Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça peut faire. Chez les gens, tu vois, et tout à l'heure, on parlait un peu d'image. Est-ce que tu crois que ça peut permettre de représenter ou même percevoir, tu vois, je pense, la réalité d'une manière beaucoup plus profonde?
Pour moi, la punchline ou bien la phrase choc, si jamais tu as un sujet donné, peut clarifier encore plus ce que tu es en train de dire. Après, si jamais il s'agit de faire un freestyle pour amuser les gens, plus ta punchline est, entre guillemets, profonde ou bien rigolote ou bien acerbe, etc., plus tout ton texte prend de l'effet. Tout dépend du texte que tu fais. Et même, c'est avec l'expérience que... Tu vois, ça, c'est le genre de truc que je peux apprendre, que je peux montrer à des gens. C'est qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les gens réfléchissent? Ou bien tu veux que les gens s'amusent? Ou bien tu veux que les gens pleurent? Ou bien que tu vois? Déjà, se mettre un cadre, déjà. Se mettre un cadre et essayer d'y aller. De pas aller de à gauche, à droite, de zigzaguer. Là, ça n'aura aucun effet. Enfin, ça n'aura ni queue ni tête.
Je suis en feu, Jordan, je brûle qui je veux. Celui qui me tue amour avec moi, comprends-moi qui le veut. Je n'ai jamais voulu jouer les cailles, mais je me suis déjà vu gun en poche. Vex, prête à shooter mes balles, et je ne donnerai pas tous les détails. J'en suis pas fier, j'étais jeune et bête pour rien. Mon sexe doublé de taille, on m'a remis sur le droit chemin. En une phase, genre, fais gaffe, avec ta lame, tu vas planter quelqu'un. Punchline, vois des petites joues rouges là, t'as dû gifler ça mal. Aïe, 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 aïe.
Ok, on écoutait donc un extrait de l'épisode 5 Kata Chaos Technique qui s'ouvrait avec un extrait, peut-être vous l'aurez connu, hein, d'un extrait de film. Ghost Dog, La Voix du Samouraï, 1999, Jim Jarmusch. Musique de RZA du Wu-Tang avec, bon c'est pas Forest Whitaker parce que c'est la version française, mais Forest Whitaker est l'acteur principal de ce film. Ce qui nous permet de parler un petit peu de fiction, parce qu'il y a de la fiction dans ce docu-fiction. Quelle part de fiction, justement, on peut se le demander aussi. Donc, il y a souvent ces petites. Il y a ces épisodes, ces sketchs, ces fictions, ces bouts de fiction qui introduisent chaque épisode. Et en même temps, cette fiction de vous en train d'apprendre le rap, elle vous a un peu aussi rattrapé parce que vous serez aussi sur scène la semaine prochaine. Deuxième petit panneau publicitaire pour la soirée. Arras West samedi prochain. Samedi ? Vendredi ? Vendredi. Ouais. Voilà, un peu sur la fiction dans ce documentaire, la place de la fiction.
Tu veux y aller ? Non. T'as raison, la fiction nous rattrape. Et tu viens de instiller une pointe d'angoisse là, d'un coup là. C'est vrai, on fait un concert la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, ouais, on a invité une première partie. Tout à l'heure, on en avait parlé du Phoenix Crew. Alors, je sais plus, tu parlais de plusieurs éléments, la fiction, le... En fait, si jamais on devait revenir sur la forme, là aussi, c'est quelque chose qui a été très important pour nous dans la réalisation du documentaire. C'est que, comme on disait, là, c'est la prétention pour nous, c'est aussi de faire de la bonne radio autant que du bon rap. Et pour que la radio soit bonne, pour nous, il faut qu'on puisse inscrire les auditeurs, les auditrices dans une forme d'imaginaire par le bruit et par les, la mise en scène sonore qu'on va essayer de créer. Là, par exemple, dans le rap, il y a beaucoup, quand on parle de la punchline, on parle de l'idée que voilà, c'est une figure qui colle à la rétine. Enfin, nous, on parle de spectacle de l'image. Et en gros, c'est tout à fait ça, c'est que dans le rap, il y a ce truc où ça doit être un discours qui illustre aussi bien qu'un tableau. Et dans cette façon d'essayer de le mettre en scène, et ben nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye d'utiliser les codes du rap, mais pour les appliquer à la radio. Et là, par exemple, notamment dans le petit échange qu'il y a entre Bugs Bunny et Alain G, ben on a voulu voilà, faire cette mise en scène d'un samouraï qui commence à travailler ses placements, et c'était une manière d'imager le rappeur qui travaille justement comme s'il rappait sur un sac de... Enfin, en gros, là, c'est un sac de frappe dans lequel c'est pas du sable qu'il y a dedans, mais des rimes. Enfin, en gros, c'est essayer d'à chaque fois essayer de jouer avec des images comme ça, et on voulait essayer de les transmettre. Donc là, par exemple, ça s'entend peut-être pas ici dans le cas d'une écoute collective, et en plus c'est intéressant de voir comment le ressenti peut différer d'une session d'écoute à l'autre. C'est que là, par exemple, quand on avait pensé à cet épisode-là, on l'avait vraiment pensé pour une écoute, je sais pas, par exemple avec un casque, et où on sentait les bruits de percussion, enfin de coups de poing d'un côté, les bruits de sabre de l'autre, enfin en gros une sorte de réponse sonore. Et pour nous, c'était tout aussi important que le fait de parler du rap. En gros, la fiction, elle servait aussi pour nous de poser un décor pertinent pour pouvoir justement jouer des sons.
Et sur la question de la fiction, je pense qu'il y a deux aspects, parce qu'il y a le concept de base, qu'on veut devenir les meilleurs rappeurs amateurs. C'est, pour nous, c'est une fiction, enfin, c'est de l'autofiction. On se met en scène et dans ce cheminement-là. Mais après, il y a d'autres aspects où, bah là, par exemple, on joue les samouraïs. C'est un théâtre radiophonique, en fait. Et ça, c'est plutôt pour nous de l'ordre du jeu, de l'expérimentation, et effectivement, comme l'a dit Bugs, d'essayer d'aller voir bah, jusqu'où on peut aller dans la création radiophonique, dans la fiction radiophonique, en essayant, comme il l'a dit, d'intégrer certains codes du hip-hop à tout ça. D'ailleurs, moi, je trouve, par exemple, qu'on joue pas très bien, tu vois, c'est pas, on n'est pas des acteurs.
Tout à l'heure, tu as un petit peu anticipé une de mes dernières questions sur les retours. Bon, on a compris qu'il y a des haters, des trollers sur Internet qui n'aiment pas le rap et votre podcast. Mais quand même, en contrepoids, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des bons retours, j'imagine. À la fois des aficionados de rap, mais aussi des gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne s'appelleraient pas forcément. Et puis aussi, un truc important, c'est que bah, c'est vrai qu'on sort de l'écoute de cette série avec une furieuse envie de prendre un micro.
Alors, je fais une petite correction. C'est que, justement, quand Luciano, Alain G., Al-Razali, enfin bref, vous donnez le blase que vous voulez. Quand Alain G a parlé justement des haters, c'était pas en fait par rapport au documentaire. En fait, c'est que on a, et c'est pour ça, nous, on aimerait aussi ce genre de retour, c'est qu'il n'y a jamais eu de retour négatif sur le documentaire en soi. Là où il y a une pluie de commentaires qui soient racistes ou critiques vis-à-vis du rap, en fait, c'était par rapport aux publications de France Culture qui faisaient justement la promotion du documentaire. Et en gros, la plupart des commentaires, c'était des commentaires du type « Mais le rap, ça s'écoute pas, le rap, c'est pas de la musique. » Mais c'était pas du tout des personnes qui avaient écouté le documentaire en soi. En fait, c'était juste des critiques sur le rap en lui-même, mais pas du documentaire. Donc, je tiens juste à informer le public ici présent, il n'y a eu aucun haters de notre documentaire. En fait, c'est ça qui nous, pose problème. Voilà, en fait, c'est que sur ça, on a eu des retours, en fait, toujours positif et qui justement a été toujours bien accueilli, et ça a été justement quelque chose qui nous a redonné beaucoup de... Enfin, on avait beaucoup de gratitude justement de, par rapport au tout, à toutes les, tous les messages qu'on pouvait recevoir ou que France Culture recevait dans, dans leur propre boîte mail parce qu'il y avait les auditeurs ou auditrices qui justement partagent leur, leur amour. Genre par exemple, tout à l'heure, tu disais, ouais, tu avais présenté les gens comme des aficionados du rap. Il y avait quelqu'un par exemple dans un mail qui disait, ouais, j'ai 67 ans, je ne suis pas du tout un aficionados du rap, mais ça m'a permis de découvrir et... parce que voilà, sur France Culture, la moyenne d'âge, elle est quand même de plus de 60 ans, je rappelle. Donc, c'était pas forcément le public qui était à la base visé pour France Culture. C'est pas, enfin, je veux dire, dans leur esprit, on touche pas le public ciblé. Et c'est là où c'était pour nous un enjeu, c'était de se dire, mais en fait, est-ce que même des personnes qui n'ont pas forcément une approche, ne serait-ce aucune curiosité vis-à-vis du rap, est-ce qu'elle pourrait être touchée par, par cette démarche. Et il se trouve que ça a été le cas, et sur ça, ça a été bien reçu. On a même eu droit à un charmant article d'un magazine rap qui a fait ses preuves, mené par une équipe de bénévoles, pour les personnes, l'ABCDR du son, si jamais il y a des personnes qui... connaissent l'ABCDR du son, voilà, c'est une équipe de bénévoles, de journalistes qui rédigent tout un tas d'articles. Et nous, par exemple, ça a été un truc sur lequel on est un peu timide. On n'a jamais publié, hormis sur notre page où on va dire, ah, écoutez, on a sorti un documentaire, allez-y. Mais on n'a jamais fait de, je sais pas, si on appelle ça de la prospection. Non, enfin, genre, ouais, enfin, une sorte de promotion où on en distribue en gros le podcast. Ah, écoutez notre nouveau podcast, ou même on pourrait l'envoyer à des artistes si vous aimez le rap, etc., etc. On n'a jamais fait cette démarche-là, peut-être par timidité ou pudeur, je ne sais pas. Mais on va dire une semaine après la publication sur les plateformes de streaming, bah, y a un article qui commence à être rédigé, être publié par l'ABCDR, et qui nous a grave étonné parce que c'était à la fois inattendu dans la forme et surtout, on avait une forme de il y a eu une sorte de reconnaissance de la part de ce magazine et ça nous avait beaucoup touché, par exemple.
On peut prendre des questions du public. J'ai une dernière petite question après, mais ça serait bien si certains d'entre vous posaient des questions. Si vous avez détesté le podcast, vous pouvez être les premiers à le dire haut et fort. Ça pourrait être, instructif. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, des points de vue, ou celles et ceux qui ont pu l'écouter peuvent dire un mot aussi, peut-être ? Alors, le micro est moyennement baladeur, donc on va essayer de faire ce qu'on peut.
Je reste là. Merci beaucoup, par ailleurs, pour cette intervention. Je suis bien, là, en fait. Non, j'avais une question, parce qu'en fait, je sais que vous êtes très sensible au visuel que vous donnez à tous vos épisodes, même avant France Culture. Et Bugs en a parlé un peu aussi du décor, de la mise en scène, et puis tout ça. Vous faites de la radio, tu l'as dit à Linger. Là, vous allez monter sur scène. Est-ce qu'après, il y aura un clip de vos productions, en fait ?
Bah, alors, tu sais qu'on nous l'a proposé. Parce que, il n'y a pas très longtemps, on a fait une nuit du freestyle à Radio PFM, sur laquelle... pendant laquelle on a rappé, et dans l'équipe qui était là, il y avait un rappeur, mais qui professionnellement est vidéaste. Il a écouté notre morceau et il nous a dit, si vous voulez celui-là, je vous fais le clip. Franchement, j'ai aucune intention, aucune ambition de ce côté-là, et je pense qu'elle est partagée par mes deux amis ici présents.
Ouais, en vrai, s'ils sont chauds, je suis chaud. S'ils sont pas chauds, je suis pas chaud. Voilà, moi ça va vite. Moi je suis là, tranquille.
Ah ouais, j'ai pas d'avis.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, alors viens au micro, s'il te plaît. Non, si on enregistre. Non, on enregistre. Ah.
Mais j'ai deux voix en fait très portées. En fait, tout le monde m'attend facilement en fait pour ça. Oui. Ok. En fait, c'est pas de questions parce que je connais le 3. Et j'étais très fier aussi en fait qu'il passe en fait de micro rebelle France Culture, mais il y a l'histoire en fait de lutte en fait dans les rap, et je voulais bien en fait entendre ce mot plus que l'autre chose en fait. Et dans vos épisodes, vous n'avez pas parlé de ça. Ça, c'est la première chose, parce que nous, Moi, je suis travailleur social, en fait. Je travaille auprès de jeunes. Et les questions de rap, en fait, ça reste toujours de préoccupation pour nous, en fait. À la fois, en fait, par les stigmates, en fait, de rap. Et la deuxième chose, en fait, pour le progrès de poésie. Parce que quand même, les rap aujourd'hui, y a beaucoup de monde, en fait, et la New York, ça, en fait. En fait, les rap, c'est les seuls endroits. Les chansons, ça, il y a de progression, en fait, de poésie, en fait, énorme, en fait, d'écriture, tout ça. Et la troisième chose, vous n'avez pas parlé de ça non plus, bah, je fais des critiques, en fait. C'était vraiment, même les rap, dans les styles, en fait, thérapie pour les enfants et les adolescents, en fait, de manière, comment on peut dire ça, juste de trouver des moyens, en fait, d'exprimer. Si c'est de bon rap ou pas de bon rap, vous avez donné les réponses, mais c'est des styles quand même très, très, très rebondis chez les adolescents, en fait. Et parce que moi, j'ai le constat, en fait, depuis 9 ans, en fait, je travaille auprès de l'adolescent et ça m'intéresse beaucoup. Et après, comment on peut utiliser les rap pour modifier l'image, en fait, vraiment de lutte sociale, en fait, pour beaucoup de choses. Parce que tout le monde pense, en fait, les rap, c'est vulgaire, les rap, c'est... Ça, en fait, je voulais, en fait, vraiment, je ne sais pas, est-ce que c'est France Culture, il a... Ah, oh, France Culture, il a limité cette liberté, en fait, de parler de ça ou quoi, je ne sais pas.
Non, il n'y a pas eu de limite, hein. C'est nous qui avons décidé... Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le volume 1, on voulait aborder d'abord les piliers, en fait, et... de la vulgarité, je pense qu'il y en a. Elle n'a pas été censurée. Après, je ne sais pas, peut-être qu'on rentrera dans ce détail-là dans d'autres volumes, dans d'autres saisons de la méthode rap sur la question de la vulgarité. Mais franchement, on ne s'est jamais bridé là-dessus.
Il y avait en plus plusieurs questions qui avaient été posées. C'est que là aussi, je reviens, je vais essayer de reprendre aussi toutes les choses que tu as mentionnées. Et avant de répondre à la question, il y a une sorte de petite précision aussi que je vais ajouter. Il y a, depuis tout à l'heure, on dit par exemple, vous êtes passé de Micro Rebelle à Radio France, comme si on était passé de quelque chose de mineur à quelque chose de majeur. Moi, je tiens juste à dire que voilà, nous, il n'y a pas de distinction qu'on va faire, par exemple, entre le travail qu'on fait à Micro Rebelle et le travail qu'on fait à Radio France. C'est-à-dire que, je veux dire, sur le travail qu'on a réalisé, c'est peut-être une différence de moyens possible, une différence d'ambiance possible, mais sinon, dans le fond, tout ce qu'on a fait auprès de Micro Rebelle, pour nous, a exactement la même valeur, au sens où c'est toujours dans la même démarche et dans la même optique qu'on réalise ces choses-là, enfin, en tout cas, les choses qu'on a pu réaliser, et c'est pas comme si, en gros, là, il s'était opéré une sorte de migration d'un lieu pour un autre. C'est juste que c'est, en fait, c'était pas du tout, c'est pas le même contexte de création pour l'un comme pour l'autre, c'est pas le même objectif. Donc en fait, limite, par exemple, si là on nous dit demain, ouais, vous êtes maintenant de passer de Radio France à Micro Rebelle. Donc je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas, hein, au cas où, c'est donc une radio associative libre et engagée, voilà, à Lens, située à Lens. Et nous, ça ne nous poserait aucun problème qu'on puisse nous dire « Ah, vous êtes passé de Radio France à Micro Rebelle ». Enfin, je veux dire, vous voyez, il n'y a pas de distinction, de hiérarchie là également sur les canaux qu'on utilise et les canaux qu'on utilise en gros pour créer et partager ce qu'on a envie de partager. Donc ça, c'était juste la petite précision. De quoi ? Et en plus, ouais, c'est même pas fini. Le travail à Micro Rebelle continue également à France Culture. Il n'y a rien d'acté pour l'instant. Donc voilà. Maintenant, sur la question de la lutte, ça aussi, c'est par exemple, ça, c'est un aspect davantage qu'on pourrait, c'est vrai, mettre l'accent dessus. L'idée selon laquelle, voilà, le rap est un moyen aussi, un moyen de mettre sur le devant de la scène des luttes, des combats qu'on souhaite mener. Sans oublier, voilà, que le rap, ça reste quand même un art émancipateur pour beaucoup. Mais par exemple, une des thématiques propres à la lutte qu'on a quand même essayé de questionner, nous, dans le documentaire, ça reste quand même la lutte vis-à-vis de soi-même. Enfin, ça paraît un peu... et quoi ?
Ouais, c'est peut-être une vision un peu libérale, je sais pas, mais il y a quand même cette histoire de lutte vis-à-vis de certaines choses qui pourraient nous empêcher de s'exprimer. Il y a une certaine lutte aussi, dans le premier épisode, il y a quand même ces passages où la façon dont on va essayer de présenter le rap sous l'aspect sociologique ou autre, enfin bref, il y a quand même ces thématiques sociales qu'on retrouve un peu distillées partout. Et également aussi sur, là aussi c'est pas quelque chose dont on en fait un enjeu, enfin, par exemple nous on écrit nos couplets pour le documentaire, je sais pas, par exemple je sais que moi dans un des couplets je parle de Le Pen, bon ben en fait c'est pas forcément, quoi ? Ouais bref, bref, ça marche, et donc ouais, donc là par exemple je vais parler de Le Pen dans un des couplets. Bon, moi, c'est comme si, à ma sauce, je faisais part de ma petite lutte à moi. Enfin, en gros...
La couleur aussi, toi, la couleur.
Ouais, la couleur, c'est-à-dire la couleur. J'ai pas parlé de la couleur. Et quoi ? Ouais, sinon, on n'aura pas fini.
En plus, on a la radio, on voit pas.
Tu peux
venir
bleu, tu peux venir vert, rouge,
c'est une couleur. Oui, ok. Bah, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas vrai, mais du coup, bref. Mais... Non, mais en gros, oui, je comprends. Mais en gros, voilà, l'idée, c'était... ouais... Et donc ça, c'était sur la lutte. Et comme l'a dit mon compère, il y a cette histoire où c'est que volume 1. C'est-à-dire qu'il y a plein de thématiques qu'on aimerait aborder et qui risquent de l'être. Peut-être qu'il y aura la lutte, peut-être que non. En fait, il y aura encore une critique de Hassan qui nous dira « Mais toujours pas, les gars, il n'y a toujours pas la lutte qui est importante pour moi. » Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait de pouvoir considérer, tu vois, ça c'est quelque chose que je te suis reconnaissant de dire ce que tu as dit, c'est que le documentaire, en gros, peut être aussi utilisé comme un outil pédagogique. Enfin, par exemple, si jamais tu travailles avec des plus jeunes et que tu veux justement développer des ateliers, etc., ça peut être un bon moyen aussi de traiter de ces questions-là. Voilà, donc merci beaucoup pour les questions, Hassan.
Ok. Est-ce qu'il y a encore une question du public ? Ou sinon, on va peut-être... oui, vas-y, Pauline.
Je ne sais pas trop, c'est une question, quoi. Mais en tout cas, je trouvais ça rigolo, depuis le début, d'entendre parler, vous disiez tous documentaire, 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 et quand vous avez commencé à parler de fiction, il y avait les petites étincelles qui commençaient à arriver dans vos yeux de... Bah, ça y est, on va commencer à triturer avec la matière. Donc ça, j'aimerais bien savoir plus sur votre pensée de la fiction vis-à-vis de la première version. Je ne sais pas si vous considérez votre émission sur Micro Rebelle comme une première version de ce que vous avez réalisé ensuite comme série pour France Culture. Et déjà, j'ai envie de savoir si vous avez vécu votre vie rêvée, un peu votre vie idéale au travers de cette docu-fiction, parce que j'ai l'impression que c'est hyper personnel, que ces personnages, vous les travaillez à fond. Donc c'est un ressenti en tout cas. Moi j'ai essayé d'apprendre aussi en écoutant quelques épisodes. Ça transmet beaucoup de l'envie de faire. Je partage la vie de Nico là-dessus. Ça communique hyper bien l'envie de faire du rap. J'ai hâte de le faire écouter à des jeunes aussi parce que moi je fais pas mal d'ateliers radio. J'avais fait écouter des extraits de la méthode ancienne version. Ils avaient rien compris. Largué, rien compris. Alors j'ai très hâte de voir ce que ça donne en version plus condensée. Voilà, est-ce que c'est votre vie rêvée ? Est-ce que c'est quoi votre kiff de fiction radio entre ce que vous faisiez avant et ce que vous avez fait avec cette série ? Et légitimité aussi, je veux dire, là c'est votre vie de rêvée, du coup, Micro Rebelle, enfin vous parlez du passage de Micro Rebelle à France Culture. On peut kiffer de ouf une forme fictionnelle aussi sur Micro Rebelle.
Ouais, bah, comme l'a dit Bugs, Nabil, bah c'est vrai que je sais pas s'il y a un passage. Hein, nous, on veut continuer à faire les deux, en fait. Et je pense que, comme il l'a dit, c'est des moyens de production qui sont différents et peut-être aussi des ambitions, parce que l'idée de faire 2 heures de documentaire, ça contraint. Nous, ce qu'on faisait sur Micro Rebelle, c'est qu'on faisait juste des mini-fictions, mais c'était pour nous de la création et de l'expérimentation radiophonique, et on mettait ça avant nos émissions, et c'était juste s'amuser à faire de la radio, en fait. Et où est-ce qu'on peut aller ? Tiens, si on essayait de faire un truc en mode cartoon, course-poursuite, comment ça marche ? Et voilà, et en fait, essayer, dans la radio, on apprend en faisant aussi, nous, c'est la même démarche. Après, est-ce qu'on vit notre vie rêvée ? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est, en fait, c'est de la fiction. C'est de la fiction, c'est plein de fantasmes en fait. Ce qu'on raconte, c'est pas vraiment ce qu'on veut être, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Et c'est là où, pour moi, ça reste vraiment de la fiction et que nous, bah, on est des producteurs de radio et pas des rappeurs. C'est que la plupart des choses qu'on fait, c'est de l'extrapolation. En fait, c'est de l'extrapolation d'idées, peut-être de l'extrapolation de sentiments. Tiens, si j'essaye de tirer ce fil-là, je sais pas, dans le dernier épisode, je veux m'émanciper parce que je pense que pour réussir une carrière dans le rap, je suis obligé de le faire tout seul parce que c'est ça le délire de l'ego trip dans le rap. Et moi, j'ai jamais eu aucune intention comme ça, tu vois. Ça, c'est pas ma vie rêvée. Moi, je veux m'amuser avec mes copains à faire de la radio, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit tellement notre vie rêvée, en fait. C'est à Micro Rebelle, ce qu'on aimait bien, c'était le côté cours de récré, en fait. C'est vas-y, jusqu'où on peut essayer d'aller avec nos moyens qui sont ceux-là. Et là, c'était quand même d'essayer d'avoir une idée de narration beaucoup plus structurée quand même, en fait, de travailler ce truc-là. Mais en fait, quand on a commencé, on n'était même pas sûr de pouvoir intégrer ce côté narratif. On n'osait pas l'assumer, on ne l'a pas vraiment dit à France Culture. Et en fait, au fur et à mesure, non mais c'est vrai, on ne leur a pas vraiment dit, on ne l'a pas trop vendu comme ça. Et au fur et à mesure, c'est le réalisateur, David Jakubowicz, qui lui avait écouté toutes nos petites créations radio sur Micro Rebelle, et il a dit, mais si les gars, faut y aller, lancer des trucs, et comme on a eu le temps, on l'a fait, voilà.
Et tu peux préciser qui a cherché qui?
Qui a cherché qui? Comment on est arrivé là-bas? Avec les gens là-bas? En fait, nous, on a participé.
Non, mais Alain G, c'est le daron. Vas-y, non, mais vas-y. Donc, avec France Culture, on a participé à un concours qui s'appelle Podcasting. On est arrivé jusqu'en finale. Donc, on a pu présenter notre première idée, notre première ébauche du documentaire à un jury. On n'a pas gagné. Mais l'idée était intéressante, donc ils nous ont mis en contact avec d'autres personnes. Donc ça a pris quelques mois, le temps qu'on ait des retours. Et c'est de là, c'est parti, tout simplement. On a participé à un concours. Ils ont apprécié l'idée. Ils ont voulu investir un petit peu d'argent sur nous. Et voilà, on a réussi à... bah ouais. Et voilà, tout simplement. Hein, tout simplement.
Oui. En plus là par rapport justement la différence qu'il pourrait y avoir entre Micro Rebelle et Radio France sur le, en fait c'est sur l'intention qui n'est pas la même, c'est que quand on fait nos émissions et en fait c'est que depuis ce qu'on a fait à Radio France, si jamais là on devait refaire de nouvelles choses à Micro Rebelle, en fait il y aurait peut-être des changements. C'est-à-dire que quand on faisait nos émissions à Micro Rebelle, en gros, pour les personnes qui ne savent pas de quoi on parle, en gros, le principe, c'était juste on invitait des rappeurs ou des rappeuses et ils nous apprennent à rapper et ça reprend un peu la même thématique. Sauf qu'à Micro Rebelle, il fallait assurer en fait à chaque fois une continuité. C'est-à-dire qu'on fait un épisode à chaque fois, on rencontre à chaque fois de nouveaux artistes et il n'y a pas de clôture, en gros, aux rencontres qu'on réalise avec les artistes. En fait, là, la seule différence qui se passe par rapport avec Radio France, c'est que là, il fallait qu'on construise un documentaire qui donne le sentiment d'un objet fini et qui tienne sur lui-même. C'est un peu comme si Un Micro Rebelle, c'était une série, et là, pour Radio France, on a dû faire le film qui devait tenir en 2 heures. Donc voilà, je dirais, c'est ça la différence. Et sinon, je ne sais pas si une question de vie rêvée, pour revenir là-dessus... on a fait beaucoup de rêves qui n'ont pas pu se réaliser en l'occurrence, mais voilà, c'est tout.
Ok, je vous propose qu'on ne prenne pas trop de retard sur la suite de la soirée, parce qu'après il y a une super conférable qui nous attend, donc on se donne peut-être un petit quart d'heure pour aller boire un coup, aller aux toilettes, prendre un petit peu l'air, tout ça, et après on se retrouve ici avec les oreilles grandes ouvertes pour la conférap de Moano et Stamif, ok ? Merci.